Bonjour à tous. Merci à l'équipe Louange. Ce n'est pas très difficile aujourd'hui de se retrouver sur le thème. Malgré tout, le Seigneur est là pour préparer toutes choses. Oui, ce matin, nous sommes le dimanche de Pentecôte. Et nous voulons tout de suite lire. Nous allons faire un peu de lecture ce matin. Le texte, plusieurs textes dans les Actes. Acte 1, verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, dit-il, c'est Jésus qui parle, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. » Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage, dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Chapitre 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions dans notre propre langue ?» Notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Et puis Pierre va apporter un discours simple mais magistral. On ne va pas s'arrêter sur les discours, mais après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ?» Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ce matin, il n'y a pas eu de vent violent, les murs n'ont pas tremblé. On aurait envie de ça. On a envie de cette puissance, de vivre cette puissance. Et moi, j'ai encore envie d'autre chose. Je vous lis un autre texte, un peu plus loin, au chapitre 3. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche !» Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Moi, j'ai envie de vivre ça. En ce moment, j'ai de l'argent. Alors, peut-être que, je ne sais pas. Et souvent, je me contente de donner de l'argent, mais j'ai envie de ça. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. La puissance de l'Esprit, la puissance de Jésus-Christ. Et on voit ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et aujourd'hui, des années après, 2000 ans après environ, les choses n'ont pas changé. Et cette puissance est toujours à l'œuvre. Et on a envie de voir cette puissance à l'œuvre. Et je proclame qu'elle est toujours active et qu'elle est toujours là. Mais ce matin, j'aimerais m'arrêter sur un autre sens, pas sens, sur un autre aspect du Saint-Esprit. Sans faire de jugement de valeur. Oui, cette puissance est réelle et encore vraie aujourd'hui. Pardon. Je viens de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas sur ma tablette. J'espère pas. Cette puissance est réelle et encore vraie aujourd'hui. Mais, c'est mon avis, pas forcément en toutes circonstances. Je voudrais donc m'arrêter un moment sur une action de l'Esprit permanente. Et nous allons dans Jean 14, au verset 15. C'est Jésus qui dit « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jésus lui répondit, verset 23, on saute quelques versets. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Au chapitre 16 également, le Seigneur reparle du Saint-Esprit. On va juste prendre à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez parce que je vais auprès du Père. Voilà. Texte un peu long, mais important en ce jour. Dans ce texte de Jean, Jésus parle d'un autre défenseur. Pourquoi ? Jésus est le premier défenseur, notre avocat, celui qui montre au juge, notre Dieu, l'acte de justice qu'il a obtenu en payant notre dette. Comme on ne peut rejuger un homme dont la peine a été acquittée, nous sommes totalement justifiés. Le premier défenseur, c'est Jésus. L'autre défenseur, l'Esprit, c'est celui qui est appelé avec différents termes, consolateur, avocat, défenseur, intercesseur sont des traductions possibles, mais aucune d'entre elles n'est suffisante. Le terme original, c'est parakletos. Paraclet est traduit dans certaines versions. Et paraclet, c'est un terme qui veut dire appelé auprès de, pour prendre la défense. C'est un terme grec juridique. Quand Jésus parle du défenseur, du paraclet, c'est un terme juridique. C'est quelqu'un, et avocat parle aussi bien, c'est quelqu'un qui est appelé à nos côtés pour nous défendre. Moi, j'aime bien défenseur. Parce que c'est l'esprit de vérité face au menteur, à l'accusateur qui veut nous faire douter de notre acquittement. Voilà pourquoi Jésus nous a envoyé un défenseur. C'est le premier défenseur auprès du Père. Il a l'acte d'acquittement. Mais Satan, ici sur terre, veut nous faire croire le contraire. Et Jésus nous a envoyé l'esprit, le paraclet, à nos côtés pour nous défendre. Le Saint-Esprit, le défenseur, met ses dons et ses qualités d'avocat à notre service. Nous qui n'avons pas son éloquence, qui ne savons pas nous défendre, nous le sommes par lui, comme si c'était nous qui avions ses qualités. C'est l'avocat qui nous représente et nous sommes comme l'avocat. Mais surtout, oui, dans Jean 16, verset 13, il est dit, « Il vous conduira, on l'a lu, dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » La semaine dernière, Jean-Paul nous a beaucoup encouragés avec un passage du magnifique texte. Du magnifique texte des Béatitudes. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où les vers et la ruine détruisent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Jean-Paul nous a encouragés. Mais comme ce texte nous remet en cause, il peut aussi nous décourager. Peut-être que quand on est dans une phase de routine, de croisière, où tout se passe bien, c'est facile. C'est facile de ne pas s'inquiéter du lendemain. On a notre job, notre salaire, on on a nos biens. Bon, on ne s'inquiète pas du lendemain. On fait confiance à Dieu. Oui, on a bien fait, c'est lui qui nous a donné toutes ces choses. Mais quand on n'est pas en bonne situation, est-ce que cette confiance est la même? Est-ce que chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est notre quotidien, notre énergie de tous les instants? C'est pareil hein, quand tout va bien. Mais quand on décide de faire confiance à Dieu et qu'on ne peut plus s'appuyer sur ce qu'on a en main, là on s'aperçoit que ce n'est pas facile. Vous avez sûrement remarqué déjà que dans Jean, entre le chapitre 14 dans lequel on a parlé de la première annonce du Saint-Esprit et le chapitre 16, là où on a lu quelques versets où Jésus reparle du Saint-Esprit, il y a le chapitre 15. Ça c'est logique, hein, entre 14 et 16, il y a le chapitre 15. Le chapitre 15, c'est le cep et les sarments. Vous croyez que c'est là par hasard? C'est moi qui suis le vrai cep, Jean 15, verset 1. C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes mes sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Nous avons besoin de demeurer en lui. Mais ça aussi, c'est tellement difficile et peut-être décourageant. Pourquoi ? On a un problème majeur sur notre vision de l'esprit. Le terme esprit, dans le monde qui nous entoure, fait référence à quelque chose de volatile, d'indéfinissable, d'abstrait, évidemment. Et on le met à toutes les sauces. C'est pour ça que le terme de défenseur dont j'ai parlé avant prend une autre valeur. On ne prend pas conscience, quand on parle de l'esprit, que c'est une personne, un membre de la Trinité, qui se tient à nos côtés, et pas un objet magique qu'on aurait reçu pour quand on en a besoin. On pourrait parler beaucoup de l'esprit, et un des points qui n'est pas le sujet de ce matin, mais que j'effleure seulement, c'est qu'en oubliant que l'Esprit est une personne qui fait que Christ vit en nous et le Père étant en Christ, on ne se rend pas compte que lorsque nous faisons ce qu'on ne devrait pas ou allons où on ne devrait pas, on emmène notre Dieu trois fois saint avec nous. Fin de la parenthèse. Comme on oublie que c'est une personne, on utilise l'esprit comme une baguette magique et on la dégaine quand on en a besoin et puis on l'arrange. On en parle beaucoup, mais en réalité, on va avec notre connaissance, notre expérience, nos méthodes, bref, avec nos forces. Et quand ça se gâte, oula, c'est un peu compliqué là, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Un peu comme si à l'image d'un mécano qui n'a pas la bonne clé, dit à son commis, comme c'est la même chose que si on disait à Dieu, « S'il te plaît, passe-moi le Saint-Esprit, j'en ai besoin pour cette épreuve-là. » Ou bien on est à fond dans l'engagement spi, on évangélise. « Oh là, celui-là, je vais le pêcher. » Il n'y a pas de jeu de mots. Hein. Là, j'ai étudié une super méthode. Je suis à bloc. Tu vas voir, Saint-Esprit. Laisse-moi faire, c'est moi qui parle. Au pire, si j'ai besoin de toi, je t'appelle. Moi, je vais arrêter là, sinon vous allez me jeter des chaises. C'est sûrement exagéré. Peut-être exagéré. Quoique. Allez, encore une. Un gars fraîchement converti, qui s'est remis en cause, repenti d'un mauvais pas, ou un qui vient d'être boosté par une super expérience, ou un message percutant. Du coup, ça peut se passer un dimanche après-midi ou un lundi matin. Ou un camp, ou un séminaire. Il y en a un la semaine prochaine. Le gars, il est remonté à fond. Il part avec son sac sur l'épaule, là. Il est parti comme dans une randonnée. À fond. Et ça déblaye, il avance. Et rapidement, les autres, ils sont derrière, là. Ça ne suit plus. Et puis il y va. Et puis il regarde. Il dit, oh, les copains, ils n'arrivent pas à suivre là. Et il avance. Et il avance. Même à un moment donné, c'est carrément de la varap, quoi. Mais il est boosté, il est équipé, il grimpe. Il monte. Pas de problème. Il arrive en haut, les doigts dans le nez. Il regarde en bas. Il dit, oulala, mais ils sont tout petits, les autres là en bas. Et puis il est encore en forme. Il y va, il avance. Et puis à un moment donné, le soleil il chauffe. Il commence à avoir l'insolation. Il commence à sentir le poids des bagages. Commence à être fatigué, et puis bon, ben, il dit je vais m'arrêter là, je vais faire la pause. Et puis l'endroit il est pas mal, je vais camper là pour la nuit. Donc, couverture, sac de couchage, on dort là, ça va bien, pas de problème. On se réveille le lendemain, puis finalement le coin il est pas mal là. Puis on n'a pas encore bien récupéré hein, finalement, on était un peu vite, on a mal aux jambes, et puis ben, on reste là la journée. Et puis le soir, ben, on améliore, on met des branches. Quelques feuilles, le coin il est pas mal, on explore un peu autour. Et puis le temps passe, puis quelques années après, la cabane de branches et de feuilles, elle s'est transformée en un beau bâtiment avec des pierres de taille, on appelle ça une église. Est-ce normal? Je parle pas du bâtiment de l'église, hein. Ça c'est une grâce d'avoir un bâtiment, même si ça ne devrait pas s'appeler une église. Mais est-ce que c'est normal, l'arrêt de la marche ou le ralentissement de la marche? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne considère pas l'esprit comme une personne, mais on veut l'utiliser. On ne l'écoute pas. Nous n'avons peut-être pas ici les meilleurs prédicateurs du monde, mais ce n'est pas le problème. Soyons honnêtes. Nous sommes plus focalisés sur la personne et ce qu'elle nous renvoie que sur ce que l'esprit nous dit vraiment. Pourquoi? Parce qu'on est concentré sur la personne qui parle et pas sur ce que l'esprit veut nous dire par elle. Déjà, on a notre appréciation. On aime bien celui-là ou moins bien celui-là. Ou bien celui-là, il va nous parler de ça, on le connaît par cœur. Il parle lentement, trop vite. Il n'est pas dynamique, il ne sourit pas, il nous endort, etc., etc. Et pour toutes ces raisons, on n'écoute pas l'esprit, mais notre appréciation personnelle. Et c'est vrai pour la louange ou d'autres moments ou activités. On est focalisé sur la forme, sur comment ça devrait être, à notre avis, mais pas sur ce que Dieu veut nous dire dans ce moment précis. Et pourtant, quelle que soit la personne ou la forme, Dieu parle. Ou alors on écoute, mais on oublie ce qu'on a vu dans le miroir. Vous m'écoutez, moi, là? Écoutez ce que l'Esprit met dans votre cœur, là, maintenant. Et vous ne m'entendrez plus, moi, mais ce que Dieu veut vous dire à chacun. Comment faire pour écouter vraiment? On l'a lu juste avant, Jésus a dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même. » Sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. On oublie qu'avec Jésus, c'est non seulement la plus merveilleuse relation qui soit, mais qu'elle est essentielle. Et qu'elle doit s'approfondir. nous avons un besoin vital de cette relation avec Jésus qui vit en nous, qui est dans le Père et qui nous montre le Père. Nous mène à sa rencontre, en sa présence, et cela par la personne de l'Esprit qu'il nous a envoyé pour être avec nous en permanence, et il l'est. C'est l'œuvre la plus puissante de l'Esprit que de nous montrer Jésus en permanence. De nous aider à développer une relation profonde avec notre Père, notre Dieu trois fois saint, par l'intermédiaire de Jésus, en nous parlant en permanence de lui. Pardon. Et pour ça, on doit s'en préoccuper. Écouter, entendre et agir. Ou plutôt laisser agir, le laisser agir. Ça peut paraître simple, mais c'est l'inverse. À l'exemple de mes propres méditations, où j'ai souvent l'habitude de dire « parle, ton serviteur écoute », où je vis des moments forts, et puis je m'aperçois qu'une heure après, j'écoute déjà plus. Messieurs, je n'ai pas besoin de vous apprendre que pour développer une relation profonde avec votre épouse, il faut l'écouter. Bien sûr, partager, mais surtout l'écouter. Je ne sais pas si j'ai un peu progressé dans ce domaine, mais en tout cas, j'ai encore un sacré chemin à faire. Avec Jésus, c'est pareil. Mais nous n'écoutons pas. Nous parlons beaucoup, oui. Nous demandons de l'entendre, qu'il nous parle. Et oui, il le fait, mais écoute-moi. On veut la manifestation de sa puissance, oui, mais quand est-ce qu'on l'écoute? Surtout si on ne médite pas sa parole. Comme avec mon épouse, j'en ai pleinement conscience, mais combien je dois encore progresser? Pourtant, en permanence, cette puissance de vie est près de moi. L'Esprit me parle et je peux m'emparer de cette puissance. Un autre rapport avec le couple, où souvent on s'appelle chéri, c'est bizarre, c'est générique, presque impersonnel. Pourquoi pas nos prénoms? Par l'Esprit, Jésus s'adresse à moi personnellement. Pas en général, d'une façon impersonnelle. Il ne m'appelle pas juste frère ou chrétien ou l'évangélique. Il m'appelle par mon prénom. Jésus dit qu'il appelle ses brebis et qu'elles connaissent sa voix. Est-ce que je connais vraiment sa voix? Est-ce que je peux la connaître si je ne l'écoute pas? Ne me répondez pas, je veux mettre personne mal à l'aise. Mais qui a sa Bible ce matin ici? Qui a lu et médité sérieusement sa Bible ce matin? Hier? Avant-hier? Qui la lira demain? Après-demain? Qui de nous n'a pas envié les disciples d'avoir eu directement l'enseignement de Jésus? Et pourtant Jésus, au moment où il leur annonce l'envoi de l'Esprit, leur dit qu'ils n'ont pas encore compris. Et on le vérifie par la suite, à Gethsémané, où ils s'endorment, et jusqu'à la résurrection qu'ils n'attendent même pas. Ils ne peuvent pas encore comprendre, et il leur dit que c'est leur avantage qu'ils partent, et qu'il leur envoie l'Esprit, qui leur parlera de lui, et que de ce fait, il sera avec eux toujours, et ils le verront. Quelques heures après, tous s'enfuient, et Pierre va même le renier. Pourtant, quelques jours après, à la Pentecôte, Pierre prononce une prédication simple mais magistrale qui a un impact extraordinaire. Qu'est-ce qui est différent pour nous? En plus, nous avons la Bible, la révélation complète, ce qu'il n'avait pas. Jésus est avec nous, encore mieux qu'avec les disciples, par l'Esprit Saint qu'il nous a envoyé, et il nous parle par lui au travers de sa parole. Mais l'écoutons-nous? Nous vivons dans un temps où depuis que Dieu a envoyé son esprit sur terre, au nom de Jésus, à la Pentecôte, rien n'a changé. La puissance de l'esprit est toujours la même et en permanence en nous pour nous permettre de ne pas accumuler de trésors sur cette terre, mais au ciel, de ne pas nous inquiéter, de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, de demeurer en Christ, le cep, de vivre une relation profonde et authentique avec Jésus et avec notre Père. Pourquoi ne l'écoutons-nous pas mieux ? Cette semaine, dans des échanges soutenus avec mes collègues anciens sur ce type de nos préoccupations, John a été conduit à nous rappeler ce texte des Actes, qui est la suite du texte qu'on a lu au début. On s'est arrêté ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Le verset d'après, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous avons besoin de vivre une relation personnelle, profonde avec notre Dieu. Mais nous avons aussi un besoin vital de vivre une relation communautaire, profonde avec notre Dieu et les uns avec les autres. Dans le chapitre 17 de Jean, Jésus a prié, cette prière que vous connaissez bien, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Suis-je le seul à souffrir de ces manques, de mon manque d'écoute ? Suis-je le seul à être pénalisé par mon manque de relation avec mon Dieu ? Suis-je le seul à me poser un tas de questions sur notre fonctionnement en tant qu'Église ? Suis-je le seul à être perdu, déboussolé dans ce monde qui ne me correspond pas ? Dans ce monde où nous ne savons plus comment nous comporter, vivre nos valeurs chrétiennes ? Comment y exercer une influence du royaume ? Non, je sais que non, car c'est le même esprit qui nous anime, c'est le même esprit qui nous parle. Que par son œuvre nous apprenions à l'écouter, que par son œuvre nous mettions toute notre énergie à développer notre relation avec notre Sauveur et notre Père. Que par son œuvre nous puissions persévérer dans l'enseignement du Seigneur, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et que par sa puissance, nous ayons le même impact sur le monde qui nous entoure qu'au jour de la Pentecôte. C'est toujours possible. La puissance qui a rempli la maison ce jour-là et qui a permis à Pierre de dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » est toujours là. Et c'est toujours la même. Amen. On se met dans le silence un moment. Oui, Seigneur, que te dire parce que tu nous enseignes dans ta parole, que te dire sinon merci du fond du cœur pour ton esprit que tu as envoyé auprès de nous. pour nous défendre contre l'accusateur d'une part, mais surtout pour nous montrer aussi que tu es là, avec nous jusqu'à la fin du monde. Pour nous pousser dans cette relation avec toi, pour travailler en nous, pour que nous la développions, pour que nous te voyions, Seigneur, pour que nous voyions le Père, parce que celui qui te voit, voit le Père. Seigneur, que te dire ? Nous sommes tellement envahis par un tas de choses qui prennent ta place. Seigneur, que te dire sinon t'écouter ? Nous voulons t'écouter. Nous voulons te demander de transformer nos cœurs afin que nous sachions t'écouter. Nous voulons te demander de transformer nos cœurs afin que, par ton esprit, cette relation avec toi se développe de plus en plus et que nous te connaissions, Père. Nous voulons te prier par ton nom, Seigneur Jésus, que nous soyons capables, par ta puissance, de chercher d'abord ton royaume et ta justice. Par ton nom, Seigneur Jésus, nous plaçons nos cœurs devant toi afin que tu y fasses ton œuvre. Je place devant toi chacun des cœurs qui est là ce matin. Amen. Oui, nous avons parlé de la fraction du pain. Il persévérait dans la fraction du pain et les prières. C'est ce que le Seigneur a institué juste avant ces textes qu'on a lus pendant ce dernier repas avec ses disciples. Et c'est un repas qui a une valeur énorme parce que, bien entendu, il nous rappelle, comme a dit Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Mais c'est aussi un repas qui a une valeur extraordinaire, parce que c'est cela, on appelle ça la communion. Ce n'est pas un terme en l'air, parce que c'est un repas dans lequel nous sommes en communion dans cet acte que Jésus a accompli pour nous. Et justement par cet esprit qu'il a envoyé, qui se tient à nos côtés, qui se tient là. Et c'est dans cette communion, ensemble et avec notre Dieu, par l'œuvre que Jésus a accomplie, que nous voulons partager ce repas. Dans Luc, au verset qu'il est dit, quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres et il leur dit, on est plusieurs, je crois, beaucoup aimé ce verset, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Jésus est déjà, on le verra quelques heures après dans la Gethsémané, est déjà dans son agonie et il a vivement désiré manger cette Pâque avec ses disciples, et il a vivement désiré que ce matin on prenne ce repas en communion avec lui. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour nous. » C'est ce que nous voulons faire maintenant. Tous ceux qui ont reçu ce sang, pour eux, qui l'ont reconnu. À l'image de ce que Pierre a dit à ceux qui voulaient savoir ce qu'ils devaient faire. Repentez-vous, changez de comportement. Recevez le sang de Jésus. À tous ceux ici qui ont reçu ce sang, qui sont non seulement ses disciples, mais les enfants du Père, qui ont été engendrés en Dieu, par la mort de Jésus-Christ. tous ceux qui sont nés de nouveau, enfants de Dieu. Ce repas est pour eux. Nous voulons maintenant partager ce repas. Je vais appeler Rebecca et Jacques pour distribuer la scène. Et ce matin particulièrement, nous voulons profiter aussi de ce temps de communion pour que ce que l'Esprit a mis dans nos cœurs, nous puissions l'exprimer aussi. Nous puissions l'exprimer à notre Dieu. Nous puissions l'exprimer à haute voix pour que la communion soit plus forte. Donc je vous invite à ne pas hésiter à prier ou à entonner un chant.
Merci Seigneur pour le pain que nous allons partager pour cette sainte scène. C'est un des quatre éléments qui faisait avancer l'Église, la première Église, et c'est aussi un des éléments qui nous fait avancer. Seigneur, que nous souvenions du sacrifice que tu as fait pour moi, pour nous, au moyen de ces éléments. Amen.
Seigneur, ce matin, on veut te dire merci parce que tu as accepté d'être cloué sur la croix pour chacun de nos péchés. Et Seigneur, je veux te dire merci pour ce sang qui a coulé. Ce sang qui me donne la vie et qui donne la vie à chacun qui désire l'accepter, qui désire te suivre. Et Seigneur, ce matin, nous avons parlé aussi de ton esprit que tu nous as envoyé. Seigneur, merci parce que cet esprit vit en nous. Et Seigneur, donne-nous de ne jamais l'oublier, que c'est une force que tu nous donnes pour marcher ensemble, pour marcher en couple, pour marcher avec l'Église, pour marcher en famille. Et Seigneur, redonne-nous cette dimension de cette puissance. Nous oublions, Père, que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui console. Tu es celui qui relève. Et cet esprit vit en nous, Seigneur. Alors donne-nous de marcher ensemble sur ce chemin. Et je te remercie pour tous mes frères et sœurs ici présents ce matin. Et je veux redire à chacun combien je vous aime. De l'amour de Dieu. Alors Seigneur, bénis-nous chacun. Merci. En ton nom Jésus. Amen.
Voilà, je partage avec vous les annonces. Avant d'arriver au programme de la semaine, une super annonce à partager, c'est qu'un petit enfant qui est né ce matin. Julian, qui est né chez Noémie et Emmanuel Sauré. Ce matin à 7h40, matinale en plus, hein, sympa. Il pèse 3,270 kg, il se porte bien. La maman est quand même fatiguée parce que l'accouchement a été provoqué déjà depuis hier matin. Alors je vous laisse imaginer. Donc, mais ils vont bien. C'est toujours précieux de partager ce genre de message. Donc, Noémie est à Saint-Julien. Pour ceux qui voudraient la visiter, contactez d'abord Fred ou Nancy, parce que les visites sont assez réglementées, assez strictes. Et puis, c'est important aussi qu'elle ait le temps de se reposer avant de recevoir des visites. Concernant le programme de la semaine, voilà, vous le voyez à l'écran. Mardi, les jeunes adultes se retrouvent chez Pierre Boinel, à Gex. Et puis, en fin de semaine, donc le week-end prochain, on a donc ce séminaire sur le combat spirituel avec Emmanuel Manlein, donc qui commence déjà vendredi à 20h. On a avancé un petit peu l'heure habituelle qu'on a de 20h30, on a mis à 20h, pour que ça ne finisse pas trop tard, qu'on puisse comme ça se coucher normalement. Donc attention, 20h. Samedi matin, 9h30. Comme ça, ça permet de libérer l'après-midi. Donc 9h30, samedi matin, la deuxième rencontre sur le combat spirituel. Ensuite, on a prévu, pour ceux qui le désirent, une visite du musée de la Réforme, le samedi après-midi. Donc la visite est à 14h sur place. On a réservé un guide, donc ce sera vraiment intéressant. Par contre, pour être à 14h sur place, il faut partir un petit peu plus tôt. Donc on prévoit de partir à 13h d'ici de l'église. Donc on vous propose, pour ceux qui désirent venir, c'est pas une obligation, mais c'est sympathique aussi si on peut pique-niquer ensemble ici. Donc l'étude va se finir environ vers 11h30. Ça laisse le temps de pique-niquer, peut-être pas forcément le temps de rentrer à la maison et de revenir ensuite. Par contre, c'est important que vous vous inscriviez. Donc il y a le panneau au fond de la salle. Inscrivez-vous donc encore ce matin. J'enverrai encore un email pour ceux qui ne sont pas là, puis ceux qui hésitent encore ou ceux qui doivent s'arranger peut-être. Mais je pense que d'ici ce soir ou demain matin, il faut que les inscriptions soient déjà complètes. Pour le coup, le cross-training est supprimé. Et donc la troisième rencontre sur le combat spirituel aura lieu samedi à 20h. Et le groupe de jeunes se joindra aussi avec. Et la quatrième rencontre pendant le culte dimanche matin. 10h30, ouais. 10h30, ouais. Désolé, ouais. Une petite erreur. Donc 10h30 le culte. Et puis Emmanuel Mannheim reste encore le lundi et participera au Femme Club qui aura lieu ici. C'est juste. Et voilà. Et exceptionnellement, c'est ouvert aux messieurs. Alors, à bon entendeur, salut. Ensuite, le dimanche d'après, le dimanche 29, qui est un cinquième dimanche, on aura donc un culte de partage, un culte de témoignage. Et donc, on vous invite. Donc, le but de ces cultes de partage et de témoignage est donc de nous encourager mutuellement, de nous encourager aussi à rendre gloire à Dieu. Donc, on vous invite à mettre peut-être en évidence l'action de Dieu en nous ou autour de nous, en se limitant peut-être à une durée de 5 minutes, parce qu'on aimerait quand même qu'il y ait plusieurs témoignages. Le mardi d'après, le mardi 31, ce sera vite là, on a prévu une réunion de membres. Ensuite, dans les autres annonces, il y aura donc un concert de Louise, donc la sœur de Johanna, qui sort son troisième CD. Donc il y a un panneau au fond de la salle et puis des flyers pour ceux qui désirent. Ce sera donc début juin. Cette semaine, nous vous invitons à prier pour les chrétiens du Brunei. Voilà, le Brunei, c'est un pays qui est tout à droite de la carte, à côté de la Malaisie, le numéro 25. C'est important de penser à nos frères et sœurs, à l'Église aussi, dans les pays dans lesquels il y a de la persécution, à prier pour eux, à les soutenir. C'est vraiment important. Sinon, je vous invite à vous lever. Je partage encore avec vous deux versets. Deux versets dans Éphésiens 3, les versets 20 et 21. À celui qui peut faire par la puissance qui agite en nous. Et cette puissance qui agite en nous, c'est le Saint-Esprit. Infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.